Bonjour, bienvenue à cette émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Confluence est une association qui a été créée il y a 25 ans. Elle concentre ses activités sur la création, l'organisation, la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence est le festival littéraire Lettres d'automne. La 25e édition a eu lieu en novembre dernier, autour d'Agnès de Sarthe, qui était l'invitée principale. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une actualité pour Agnès de Sarthe, puisqu'elle est présidente du prix du Livre Inter 2016. Le cercle de lecture de Confluence est ouvert à toutes et à tous. Il rassemble des lecteurs qui échangent autour d'un livre. Aujourd'hui, nous allons débattre autour du livre Le Château Blanc d'Orhan Pamuk, qui est un livre disponible en format de poche folio. Pour en parler, sont rassemblés dans ce studio Geneviève. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Jean?
Oui, bonjour.
Alors, quelques mots sur l'auteur. Orhan Pamuk est un écrivain turc qui est né en 52 à Istanbul. Et Istanbul est une ville, on le verra, très importante pour lui. Il a fait des études d'architecture et de journalisme. Il est l'écrivain turc le plus vendu dans le monde. Ses livres sont traduits dans 60 langues. Il a remporté de nombreux prix littéraires en Turquie, mais aussi en France. Il a reçu le prix France Culture 95 pour Le Livre Noir et le prix Médicis étranger pour Mon nom est rouge en 2002. Il est avec José Saramago à l'origine du Parlement européen des écrivains qui s'est tenu à Istanbul en novembre 2010. En 2006, il obtient le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier turc à avoir reçu cette distinction. Je signale qu'en 2005, il est mis en examen pour insulte délibérée à l'identité turque pour avoir admis l'existence du génocide arménien et la réalité du massacre des Kurdes par l'État turc. Et à ce moment-là, il y a une mobilisation de 8 grands écrivains qui sont mobilisés, qui ont réclamé l'abandon immédiat des charges contre lui. Les accusations sont finalement abandonnées en 2006. Le Château Blanc a été publié en 85, publié en France en 85, mais je crois que c'était 83. C'est son troisième roman. C'est un jeu sur le double et les identités multiples qui, Jean, vous voulez nous présenter un peu le livre, avant de rentrer dans les détails, nous donner un peu le...
C'est un livre sur le double. C'est l'histoire d'un jeune Italien qui est pris par des pirates turcs et qui devient l'esclave d'un maître turc à Istanbul. Et il se trouve que ce maître lui ressemble énormément, il est pratiquement son double, et il va y avoir donc dans tout le roman l'histoire de ces relations entre le maître et l'esclave, le maître et l'esclave devenant de plus en plus comme des jumeaux, comme des sosies, et travaillant l'un avec l'autre, mais... chacun étant curieux de ce que connaît l'autre. Le maître, très curieux de savoir ce que pensent, ce qu'il appelle les autres, ou eux, et l'Italien aussi, très curieux de ce monde qu'il découvre à Istanbul. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais les deux personnages vont se rapprocher de plus en plus du pouvoir politique, d'abord d'un pacha, puis du sultan, et proposer leurs services, notamment en fabriquant, entre autres, une machine de guerre, mais aussi en intervenant dans une épidémie de peste. Et alors si je reprends à partir du début, en organisant aussi une fête avec feu d'artifice extraordinaire.
Oui, alors on peut compléter un tout petit peu en disant que c'est le XVIIe siècle, je crois. Hein,
oui, c'est le XVIIe siècle.
L'histoire se situe au XVIIe siècle. Geneviève, qu'est-ce qui vous a, vous, séduit, intéressé, ou je dirais, qu'est-ce qui vous a laissé, de marbre dans ce roman?
Personnellement, j'avais lu quelques autres livres d'Orhan Pamuk et donc cet auteur m'intéressait. Voilà un livre que je n'avais pas lu. J'y suis donc entrée avec plaisir et j'ai évolué tranquillement dans le livre jusqu'à la fin, contrairement à ce que quelques personnes de notre groupe ont exprimé. En particulier, j'ai retrouvé l'univers d'Orhan Pamuk, ce que j'avais tellement aimé dans Mon nom est rouge que vous avez évoqué, et où le thème du roman est situé aussi avec ce regard d'un pays à l'autre, d'une pensée à l'autre, puisqu'il s'agit de ce moment très important où d'Istanbul à Venise, il y a confrontation des représentations artistiques. Autrement dit, à Venise, la découverte de la perspective, et à Istanbul, la création traditionnelle des miniatures ottomanes. Et c'est un rapport qui est, comme vient de le dire Jean, un rapport « je t'aime moi non plus ». Chacun est fasciné par ce que l'autre fait.
Pour rester sur ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut parler d'un choc de civilisation ou pas?
Oui, peut-être. Oui. D'ailleurs, oui, puisque d'ailleurs ce roman, Mon nom est rouge, commence par un assassinat. Parce qu'il y a conflit quand même entre les deux visions esthétiques. Voilà. Donc ce roman, je le recommande à tout le monde. C'est par là que je suis rentrée dans l'univers d'Orhan Pamuk, qui, comme vous l'avez dit, est un auteur très, un auteur en pleine maturité encore aujourd'hui et très important et qui mérite bien ce prix Nobel qu'il a eu, non seulement pour son œuvre, mais aussi pour son engagement.
Oui.
Ou plutôt, on va dire, pour son engagement, mais surtout pour son œuvre.
Voilà, dont on a.
Voilà. Et je retrouve ce conflit-dialogue dans le Château Blanc, qui est représenté par ce couple du maître et de l'esclave. Finalement, il y a domination de l'un par l'autre, et c'est évident dans le récit, mais fascination aussi.
Oui.
Fascination. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure à propos de la phrase de Proust en exergue.
Oui. Alors on a mentionné que c'était un livre qui se passait. L'histoire se déroule au XVIIe siècle. Simplement, il faut bien voir aussi. Je crois que toutes les thématiques sont très contemporaines. Hein? Puisqu'on va parler de politique, on va parler de philosophie, on va parler de religion aussi, et on peut certainement trouver des échos dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, alors je pense que c'est là où on peut voir que Orhan Pamuk, il est l'héritier de deux traditions. Il est l'héritier de la tradition qu'on peut appeler orientale, hein, du conteur qui prend plaisir à raconter une histoire, mais il est aussi imprégné de culture, disons, occidentale. Hein, et il y a ces deux parties chez lui. Et il me semble que s'il est originaire d'Istanbul, et si Istanbul est une ville tellement importante pour lui, c'est aussi parce que cette ville, c'est un pont entre l'Europe et l'Asie. Hein, c'est vraiment une ville qui est extraordinaire de ce point de vue-là, puisque c'est sans doute je pense que c'est la ville unique au monde qui est à cheval sur deux continents.
Oui. Et qui le reste fascinante encore.
Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre. Cette double appartenance.
Oui.
Et ce qui m'a amusé aussi, c'est de voir que Orhan Pamuk, sans avoir l'air de rien, lance des clins d'œil, s'amuse. Par exemple, lorsqu'il s'adresse au lecteur en lui disant que peut-être qu'il est fatigué de le lire ou que peut-être l'histoire que vous êtes en train de terminer, mes lecteurs les plus intelligents sont peut-être arrêtés de me lire. Ça, il me semble que c'est hérité de, par exemple, du roman anglais. Des clins d'œil comme ça que le narrateur adresse à son lecteur. Oui. Donc il y a, enfin moi j'avais proposé la lecture de ce livre parce qu'il me semblait que c'était celui d'Orhan Pamuk qui était le plus représentatif de ce thème du double,
hein,
de la double appartenance.
Alors est-ce que vous êtes Est-ce que vous agréez si je vous dis par exemple que ça me semble être dans la lignée aussi, vous avez parlé des Anglais, mais je pense aussi aux contes philosophiques voltairiens par exemple.
Oui.
Où souvent sous le couvert de, disons, de l'anecdote et de la fable, quelquefois un peu anodine en apparence, on est invité à réfléchir sur des problèmes importants qui préoccupent toute l'humanité, quoi.
Oui.
Si je peux ajouter encore autre chose, tu as parlé tout à l'heure, Geneviève, de Mon nom est rouge. Dans Mon nom est rouge, le thème c'est donc la deux manières de peindre. Et ici, il me semble que le thème c'est la science, c'est-à-dire que faire avec le savoir, comment aborder les problèmes scientifiques, oui. Et dans les deux cas. Les personnages vont se lancer dans des entreprises qui seront finalement vouées à l'échec. Une entreprise de fabrication d'une machine de guerre qui va être une espèce de monstre qu'on traîne vers les pays du Nord dans la boue et qui devient finalement totalement inutile. Et par ailleurs aussi la recherche, disons, plus introspective, avec aussi des excès lorsque ils se mettent à interroger de braves personnages, de pauvres paysans et à les forcer à confesser leurs péchés, etc. Il y a donc dans les deux cas un excès dans finalement la curiosité scientifique. Et ça m'a paru intéressant aussi.
Intéressant et curieux parce que on peut penser que la construction de cette machine de guerre fait allusion aux machines de Léonard de Vinci.
Oui.
Et en même temps, cette recherche de connaissance de soi fait allusion plutôt à presque aux recherches freudiennes.
Voilà. Où,
donc on a à la fois la science d'avant et la science d'aujourd'hui.
Et voilà. Dans les deux cas, donc, il me semble justement l'échec d'un excès de recherche, d'un excès de curiosité.
Oui.
Et j'ai trouvé aussi, il me semble qu'il y a vraiment un clin d'œil là, dans une phrase que j'ai repérée, lorsqu'ils sont tous les deux face à face à une table, ils sont assis à une table, et la phrase dit « assis face à face, tels deux vieux garçons qui passent leurs interminables soirées d'hiver » à tirer les cartes, etc. Nous couvrions des pages et des pages de nos gribouillis. Ça m'a fait penser à deux vieux célibataires célèbres de la littérature française, c'est-à-dire Bouvard et Pécuchet.
Ben,
et je pense que c'est pas innocent ce clin d'œil comme ça. Et je crois que le livre est plein justement d'allusions que quelquefois on repère pas.
Voilà. Ceci dit, on peut ne pas les voir, c'est pas grave.
Bien sûr.
C'est une histoire, un conte.
Mais quand on parle de deux vieux garçons qui sont comme ça en train d'étudier d'une façon peut-être excessive, bon. Par ailleurs, alors. Tu l'as dit tout à l'heure, Geneviève, la lecture de ce livre a déconcerté un certain nombre de lecteurs. Et il me semble que justement, ce livre-là, la lecture de ce livre-là, pose la question essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, lecteur, je recherche dans un livre. Est-ce que je veux être rassuré? Est-ce que je veux qu'on me fasse rêver? Est-ce que je ne supporte pas d'être déconcerté ou d'être gêné, etc. Pour moi, la réponse, c'est je préfère une littérature qui me déconcerte, qui me soit par certains côtés énigmatique, mais qui m'incite à réfléchir, à aller plus loin.
Bien sûr, ceci dit, la lecture est facile.
Voilà, alors, la lecture est facile.
Et agréable.
Oui. Il faut tout de même dire que si vous avez commencé le livre, il faut vraiment aller jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, là, il y a une surprise qui est tout de même relativement étonnante.
Oui.
Et qui donne presque envie, d'ailleurs, parce qu'on sent que l'auteur nous a un tout petit peu, je vais pas dire baladé, mais enfin, nous a baladé, quoi.
Oui,
et ça donne envie de relire le livre, en disant comment est-ce qu'il a fait ça, quoi. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça. Donc je crois qu'on peut avoir envie d'une seconde lecture.
Hein. Oui, bien sûr.
Vous êtes bien sur CFM. la radio CFM et vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous débattons autour d'un livre qui s'appelle « Le Château Blanc » et qui est écrit par Orhan Pamuk, le premier turc, écrivain turc, à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Un mot sur le titre, « Le Château
Alors,
Blanc ».
Alors justement, est-ce que vous Je viens de, alors c'est coïncidence, je viens d'ouvrir le livre à la page où il est question du château. Il est question donc de ce château blanc à la fin du livre. Toute l'armée turque part en expédition dans le nord. C'est toujours ce rêve hein, chez les Turcs d'arriver jusqu'à, bon ils sont arrivés jusqu'à Vienne, hein, donc d'aller hein, conquérir les territoires du nord. Et on arrive donc devant une forteresse et on est très loin dans le nord. Nous arrivâmes enfin en vue du château. Il se dressait au-dessus d'une colline assez élevée. Les lueurs du soleil couchant teintaient légèrement de rouge ses tours où se déployaient des étendards. Il était blanc, immaculé et très beau. Je ne sais pourquoi, je me dis qu'on ne pouvait imaginer qu'en rêve une chose aussi belle et inaccessible.
Donc là,
on est dans le conte. Et alors, ce qui est très curieux aussi, c'est que le lieu où se trouve ce château s'appelle Doppio. Et Doppio, en italien, ça veut dire double.
Double. Oui.
Donc
oui.
Là aussi,
oui.
Nouveau clin d'œil.
Oui, oui,
bon.
Oui.
Voilà, nouvelle.
Alors, si on s'arrête un instant sur les, si on s'arrête un instant sur justement ces deux personnages, si vous voulez, entre le maître, le maître et l'esclave, c'est assez étonnant parce que il y a des choses qui peuvent, qui peuvent surprendre. Par exemple, page 21, on va trouver en ce temps-là, j'étais quelqu'un d'autre, un homme que ma mère, sa fiancée, ses amis appelaient par un autre nom. Voilà, il était quelqu'un d'autre. Très bien. Vous allez ensuite le début du chapitre 2. Chapitre 2. L'homme qui pénétrait dans la salle me ressemblait d'une façon incroyable. Mais c'est moi. Voilà ce que je me dis tout d'abord. À croire que quelqu'un, pour me jouer un mauvais tour, m'avait introduit, etc. Donc c'est effectivement le double, si vous voulez. C'est toujours là. Il y a toujours ces clins d'œil qui sont là dans lequel il entretient volontairement. C'est moi, mais c'est pas moi, quoi. C'est un autre.
On finit même par se demander
si moi est un autre là.
Oui. Et on finit même par se demander si il n'y a pas un seul personnage finalement.
Ah là, il ne faut pas en dire trop.
Oui,
là.
Oui, c'est le... Peut-être je vais évoquer cette phrase en exergue de Proust au début du livre. « Je est un autre » ou bien peut-être Orhan Pamuk traite-t-il de cette fascination qu'on peut avoir pour l'autre d'une autre civilisation. Pourquoi il s'intéresse sans doute au fait au fait que nous soyons attirés malgré tout par l'autre. La phrase de Proust est très prise de tête au départ, hein, parce qu'elle est un petit peu longue.
Oui.
Je vais la lire,
oui.
Mais finalement, je l'ai relue et c'est ça l'intérêt. Jean, t'as raison. Un livre qui ne donne pas à s'arrêter pour réfléchir, c'est pas un bon livre finalement.
Mais moi aussi ça m'a enchanté qu'un écrivain turc mette en exergue et comme ça une phrase de Proust. Ça m'enchante.
Oui. Il dit Proust que nous croyons qu'un être participe à une vie inconnue où son amour nous ferait pénétrer. C'est de tout ce qu'exige l'amour pour naître, ce à quoi il tient le plus et qui lui fait faire bon marché du reste. Il a tout dit et en même temps, comment vais-je pouvoir dépiauter cette phrase ? Être attiré par l'autre, on appelle ça peut-être l'amour, mais ça veut dire être curieux de ce que l'autre a et que nous n'avons pas et que nous voulons posséder aussi. Alors, cela peut être, c'est dans le roman incarné par deux personnes qui sont fascinées l'une par l'autre, ou Cela représente, ça peut représenter une civilisation, enfin un individu d'une civilisation pour un autre individu d'une autre civilisation, les deux étant à la recherche de posséder un territoire qu'ils n'ont pas. Autrement dit, pour arriver à étendre leur domaine personnel. C'est peut-être tous ceux qui sont curieux de voyage et de d'exotisme.
D'ailleurs, oui.
C'est peut-être ça qui est représenté aussi, finalement. Alors, ça suppose qu'à certains moments, il y ait difficultés, mais il y a un désir de conquête. Chacun cherche peut-être son château blanc. Vous voyez? Bon, j'y vois ça pour ma part. Mais on peut, l'intérêt du livre, c'est que on va empiler des significations.
Voilà. Il y a aussi cette idée que arriver à un équilibre entre les deux, c'est très difficile. Il y a toujours la peur d'être débordé par l'autre.
Voilà.
Par exemple, il y a cette phrase, voilà comment vivaient les autres. Ceux qui allaient nous vaincre. Nous devions donc agir au plus tôt, sans leur laisser le temps de passer à l'action. Donc il y a toujours cette crainte d'être peut-être dépassé par l'autre ou vaincu par l'autre.
Oui.
Et l'équilibre donc est difficile à établir entre les deux.
Et on voit bien le sens que ça peut avoir aujourd'hui.
Et oui, exactement.
Avec les réflexions que nous faisons d'une civilisation à l'autre, c'est très très étonnant. Oui. Et alors, au fond dans son œuvre, Orhan Pamuk a approfondi sa réflexion par d'autres romans, par exemple dans Neige, où au lieu de rester avec une narration comme ça symbolique, il a voulu pénétrer à l'intérieur de son pays pour voir où on en était, où la civilisation, enfin en tout cas le pays, les Turcs, où ils se situaient par rapport aux autres civilisations. Et on voit dans Neige, par exemple, le narrateur, parce que toujours Orhan Pamuk existe quelque part en tant que narrateur.
Oui.
Ici aussi, il y a un écrit d'un romancier, d'un narrateur qui dit
voilà.
« Je vais peut-être vous fatiguer ». Dans Neige, il y a aussi un écrivain en mal d'inspiration qui part peut-être pour se nourrir. Il part dans sa Turquie profonde et il étudie comment, à l'intérieur même de son pays, il y a des conflits, des intérêts pour l'ailleurs ou pas, des personnes qui, au contraire, se rétrécissent autour d'une identité traditionnelle turque, d'autres ouverts, ainsi de suite.
Oui.
Neige, très très beau roman, également.
Oui.
On voit qu'il y a un parcours chez Orhan Pamuk et là il faut considérer que c'est un des premiers romans où la narration compte beaucoup et où on pourrait s'abandonner au simple plaisir de lire une histoire étonnante. Contient tout le reste.
Ah oui. Une question sur Istanbul. Puisque vous connaissez, je crois, bien Istanbul. Lorsque le prix Nobel lui a été décerné, l'Académie suédoise a mentionné qu'il était l'écrivain de l'âme mélancolique de sa ville natale, Istanbul. Et donc, en disant ça, on fait référence aussi à ce qu'on appelle l'usun, c'est l'équivalent turc du spleen, un peu.
Oui.
Est-ce
que
vous êtes...
Oui, alors, moi je recommanderais aussi la lecture du livre qui s'intitule Istanbul, qui a paru aussi en folio, et qui est en partie autobiographique, et où il montre justement que cette ville, elle peut être très chargée de mélancolie, c'est une ville qui peut être noyée dans la brume, et c'est illustré aussi de photos en noir et blanc. Je recommande la lecture vraiment de Istanbul.
Oui. Donc ça fait un guide. Si on va à Istanbul, il faut le lire, non ?
Oui, d'une certaine façon. Et alors, ce qui me plaît aussi, c'est que il y a un autre, on a un écrivain en France qui a écrit sur Istanbul et sur les Turcs, c'est Pierre Loti. Mais Pierre Loti, lui, c'est l'orientalisme, un peu condescendant, c'est-à-dire je parle de l'Orient, mais je me sens supérieur quand même. Il y a un peu ça. Et puis avec un souci aussi de détails, de détails pittoresques, et que je ne retrouve pas ici, que je ne retrouve pas chez Pamuk, et ça me plaît bien.
Cette mélancolie, elle est, il me semble, représentée d'un livre à l'autre. Je ne parle pas spécialement du Château Blanc, par la neige. Ça me fait, il me semble que, en tout cas, je pense au film Winter Sleep qui nous a marqué, qui a été primé à Cannes et qui représente tout à fait ça. Très, très beau film que je recommande.
Oui. Mais il y a un très beau cinéma turc.
Et Neige, Neige de Orhan Pamuk, c'est pour représenter cette mélancolie.
Moi, j'avais beaucoup aimé aussi un film qui s'appelle Uzak.
Oui, bien sûr.
Donc qui se passe aussi à Istanbul avec deux personnages, un personnage de citadin et puis quelqu'un qui arrive du fin fond de la campagne, et la confrontation entre les deux personnages est très intéressante. Et il y a aussi l'arrière-plan justement chargé de mélancolie ou de noirceur.
Alors, est-ce que vous avez été, justement, vous disiez que vous vouliez être un petit peu déstabilisé quand vous lisiez les choses. Est-ce que les procédés, le procédé narratif, là, vous a un tout petit peu, surpris, déstabilisé?
C'est ce qui me plaît, mais comprends que ça déconcerte des lecteurs. Oui. Alors, il faudrait pas, nos auditeurs veulent lire le livre, qu'ils se disent pas que c'est un livre compliqué à lire. C'est pas un livre compliqué à lire.
C'est une fable, comme
une fable, effectivement,
il n'y a pas énormément de personnages, et il y a on s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages, c'est ça qui est riche et qui en fait, mais c'est pas un livre, on n'est jamais perdu, je veux dire, en lisant le livre.
Alors, ce qui fait l'unité, c'est le jeu.
Voilà.
Jeu du narrateur.
Alors, il y a ces deux personnages qui sont là, de temps en temps, effectivement, on sait plus très bien, un tout petit peu, parce qu'il y a ce doppio, comme vous disiez, ce double qui est là, on n'est pas un peu perdu, mais parce qu'ils sont à la fois complémentaires, ces personnages, il y a un sentiment d'amitié, mais aussi un sentiment de haine, c'est ce que vous disiez, j'aime, je t'aime, moi non plus, il y a tout ça qui est là, et qui donne une force au livre qui est assez importante. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont tout de même assez... l'auteur, c'est vrai, nous balade. Par exemple, moi, je ne l'avais pas repéré, mais j'ai su que lorsqu'il fait dans son... Il fait une épigraphe qui a la mémoire de Nilgun Darvinoglu, 61-80, sœur aimante, être de bonté. Bon, très bien. Et puis, il a une introduction qui est signée par... un certain Farouk Darvinoglu.
Voilà, bon, c'est le même nom. Oui.
On dit très bien, c'est le même nom. Alors, on nous en dit pas davantage sur ces personnages, mais a priori, on n'a pas de raison de douter de leur existence. Sauf que, dans La Maison du Silence, un roman du même auteur, écrit plusieurs années auparavant, cette certaine Nilgun Darvinoglu et lui, ce sont les personnages principaux de cette fiction, si vous voulez. Donc il vous donne des choses comme ça. Alors on lit ça, on ne sait pas que ce sont les personnages principaux de aucune importance, si vous voulez. Mais si on le sait, on dit tiens, il nous balade encore. Oui.
Oui, c'est très réfléchi, hein, comme ça a l'air d'être, ça coule comme une fable. Mais en réalité, il a mis là-dedans tout ce qu'il faut pour que l'on puisse analyser profondeur tous ces éléments.
Le dernier chapitre, il dit « J'arrive maintenant à la fin de mon livre ». Bon, on imagine, très bien. « Mes lecteurs les plus intelligents l'ont peut-être déjà abandonné, décidant que mon histoire avait pris fin depuis longtemps. Ouais. Il fut un temps, je me disais la même chose, j'avais fourré dans un coin ces pages rédigées, il y a bien des années de cela, dans l'intention de plus jamais les relire, etc. » Donc, il est là, il nous... Il y a un jeu qui est là, et moi je dirais que j'aime bien me laisser prendre dans ce jeu aussi, je trouve ça excitant. Quoi.
Je confirmerai ce qu'a dit Jean il y a une minute sur l'intérêt de lire, outre le plaisir de feuilleter et de lire une histoire, c'est que autant nous avons souligné le caractère engagé du romancier dans la société de son temps, autant ici ne donne pas de leçons du tout. Il expose, il tous les éléments sont à vraiment à réfléchir et proposer au lecteur pour qu'il en fasse son fruit. Il n'y a pas du tout d'engagement dans le livre. C'est oui. Voilà. Au lecteur de faire le travail. Voilà. Oui.
Alors on peut étendre cette réflexion à l'art en général.
Hein. Bien sûr.
L'art, enfin, le but de l'art, c'est pas de rassurer les gens. Oui. Hein. C'est au contraire, de les faire bouger, enfin de les déconcerter.
Oui, oui.
Mais un art qui est comme ça, qui apporte ses solutions ou qui est confortable, c'est pas souhaitable. Enfin, pour moi.
Bien sûr.
Je voulais aussi évoquer un autre livre d'Orhan Pamuk, un des derniers, qui s'appelle Le Musée de l'innocence.
Oui.
Et ce livre prouve que pour lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure un peu, les personnages de fiction peuvent être l'équivalent de personnages réels. Parce qu'il se trouve que Pamuk a créé à Istanbul un musée qu'il appelle le Musée de l'innocence, dans lequel il expose tous les objets, tout ce qui est matériel et que l'on rencontre dans son livre. Hein, c'est-à-dire le moindre objet dont il est question dans le livre, on le voit dans le musée.
Ah oui.
Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant dans ce mélange entre le réel et la fiction.
Et ce qui est remarquable là-dedans, justement, c'est que il s'agit de maintenir en vie le passé de sa ville, par exemple, mais enfin aussi son passé personnel. Donc il y a tous les livres représentent ont une valeur historique à un moment donné, mais en même temps, c'est une quête également de lui-même. Et d'ailleurs, il est présent, comme je disais tout à l'heure, à travers un personnage, narrateur, poète, ou ici, aussi bien le Vénitien d'ailleurs que le Turc. C'est ça qui est fort, hein, c'est que...
D'ailleurs, on a fait remarquer que ce n'était pas un Vénitien, le personnage, c'est un Toscan, enfin un Florentin.
Un Toscan,
et donc, c'est encore plus intéressant parce que c'est l'époque où vraiment Florence représente la quintessence de la connaissance, de l'art, etc.
C'était un échange qui vous était proposé par le Cercle de Lecture de Confluence. Nous avons échangé autour d'un livre qui s'appelle « Le Château Blanc ». D'Orhan Pamuk, que nous vous invitons vivement à lire, et vive la littérature, et qui nous déstabilise surtout. Au mois prochain, au revoir.